enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je crois que le message est destiné à nous transformer. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Je me souviens ». Quelqu'un m'a demandé « Est-ce que vous prêchez sur l'élection ?» Non, pas du tout. Laisse-moi vous dire que si vous êtes fédéraliste, adéquiste ou péquiste ou n'importe quel autre iste, la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est de connaître le Christ. Amen. Et moi, je sais que c'est lui qui est l'espérance de notre province, notre pays, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous allons recevoir la Sainte Cène tantôt, le repas du Seigneur. Et souvent, on fait cela après la louange et l'adoration, mais ce matin, j'avais vraiment à cœur de prendre du temps pour voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport au repas du Seigneur, pour qu'on puisse recevoir avec une conscience et une intelligence qui est éclairée. Ça va bâtir notre foi, et je crois que tantôt, quand nous allons offrir les éléments à ceux qui veulent recevoir, on va voir que ça va faire plus d'impact dans votre vie. Parce que c'est pas n'importe quoi. C'est important, la Sainte Cène. C'est important, le repas du Seigneur. Et on va commencer avec un verset, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Et nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu qui va nous aider. C'est l'apôtre Paul qui parle et dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, souligne ce mot indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, et j'aimerais que vous souligniez cette phrase, discerner le corps, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit en jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc, là, on voit que qu'est-ce que Paul est en train de dire, c'est important, n'est-ce pas? Et je veux juste que vous sachiez que ce matin, les choses que nous allons voir sont tellement, tellement importantes. Il faut les saisir. Ça peut transformer votre vie. Amen. Et vraiment, j'avais à cœur, je voulais pas aller trop vite pour le repas du Seigneur. Je voulais prendre le temps qui est nécessaire pour enseigner la parole de Dieu. Des fois, on va prêcher. Des fois, on va enseigner. Des fois, on va faire les deux ensemble. Et je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire ce matin, mais je vais au moins, je sais que je vais vous enseigner un couple de choses qui sont bien importantes. Avec l'onction de l'Esprit, avec l'aide de la parole de Dieu, on veut comprendre les choses. Ici, dans les derniers versets qu'on a lus, Paul a dit que c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes parmi vous, il y a beaucoup de malades, il y a même des gens qui sont morts avant le temps. Donc déjà en partant, nous voyons que c'est un message important, n'est-ce pas? Que si nous ne comprenons pas ce message, ça se peut qu'on peut être infirme, malade ou mourir avant le temps. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être malades et mourir avant le temps? J'espère que vous ne levez pas la main. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient mieux vivre toute leur vie ici sur la terre, accomplir tout le plan de Dieu et vraiment saisir sa destinée? Ça, c'est mon désir, n'est-ce pas? Donc, nous voyons ici quelque chose que dans ces versets qu'on vient de lire, il y a une réponse à beaucoup de questions. Des gens qui posent la question suivante, mais si Dieu veut qu'on soit en bonne santé, parce que la Bible dit, 3 Jean chapitre, mais juste un chapitre en 3 Jean, mais verset 2 dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » N'est-ce pas? Donc, nous voyons que la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous soyons prospères à tous égards et que nous soyons en bonne santé. On va voir dans, partout dans la Bible, il y a quand même des promesses que Dieu a faites pour qu'on soit capable de mener une longue vie sur la terre, d'être libéré de la maladie, etc. Mais si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes, même dans les églises, qui sont malades ou qui vont mourir avant le temps? Écoute, bien important, le but ce matin, c'est pas de juger les autres, le but c'est de juger soi-même. C'est ça qui est marqué, n'est-ce pas? Mais quand même, la question se pose souvent, n'est-ce pas vrai? Combien de vous, vous avez entendu ou eu cette question? Moi, je me suis posé la question. Dans ma propre vie, il y avait des moments où j'étais infirme ou malade et j'avais prié, j'avais demandé des choses, mais pour une raison quelconque, j'avais encore des luttes avec ma santé. Et je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont tout de suite sauter à une conclusion et dire, bon, mais de toute façon, ça doit être la volonté de Dieu pour toi d'être malade. Laisse-moi vous dire une chose, c'est pas qu'est-ce qu'on voit dans la parole ici. Est-ce que la parole est en train de dire clairement que c'est pas normal qu'il y a des malades ou des personnes qui vont mourir prématurément? Ça, c'est pas le norme. Le norme, c'est que les gens soient en santé. Le norme pour un chrétien, c'est que les gens vivent une longue vie sur la terre. Si c'est pas le cas, c'est parce qu'en quelque part, il y a un problème. Et encore, le but ici, c'est, faites bien attention, pense pas à quelqu'un d'autre qui est malade, pense à vous-même. Amen? Mais il faut, moi je fais ma job en tant que pasteur ce matin, je prêche la parole. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de savoir que s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, la Bible dit qu'on doit se juger soi-même. On doit s'examiner soi-même, la Bible dit ailleurs, pour être sûr que nous sommes dans la foi, pour être sûr qu'on a compris qu'est-ce que Christ a fait pour nous. S'il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas encore sauvés, qui ne sont pas encore chrétiens, même après avoir entendu l'Évangile, même des fois, est-ce que le fait qu'ils ne sont pas encore chrétiens, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'ils soient sauvés? Non. S'ils ne sont pas sauvés, c'est parce qu'en quelque part, ils n'ont pas reçu le salut. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas? Des fois, oui. Des fois, c'est parce qu'ils sont dans l'ignorance. Vous savez que la Bible dit ceci. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, ce que je ne connais pas peut être très, très, très dangereux pour moi. Quelqu'un qui ne connaît pas le plan de salut, c'est dangereux pour son éternité, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus dit, allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Donc c'est important, il faut qu'on croie, mais il faut qu'on sache avant de pouvoir croire. Amen. Donc on voit cela, qu'il y a un lien entre qu'est-ce qu'on appelle la Sainte Cène ou le repas du Seigneur et la guérison divine et le bien-être chez les chrétiens. Il y a un lien. Donc, et qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand on prend le pain, on va prendre du jus, quand nous prenons cela, nous faisons cela en mémoire de Jésus. Tout le monde dit, je me souviens. Alléluia. Nous allons faire cela en mémoire de Jésus. Il faut se souvenir de certaines choses quand nous prenons le pain, quand nous prenons la coupe. Pourquoi? Parce que si nous ne discernons pas le corps de Christ, si nous ne comprenons pas, nous mangeons et nous buvons en jugement contre nous-mêmes. OK? C'est pas parce que la main de Dieu va tomber sur nous d'une façon sévère qui va nous frapper. C'est pas ça. Mais vous savez, ce qu'on ne sait pas peut nous tuer. Une personne qui ne sait pas qu'il faut se laver les mains avant de manger peut mourir d'une maladie inutilement. Vous êtes d'accord? C'est pas parce que la personne voulait mourir, c'est parce que la personne ignorait les lois biologiques, il comprenait pas comment les microbes fonctionnent, donc il savait pas qu'il fallait se laver les mains avant de manger. Il y a plein de choses que les gens ont fait il y a quelques milliers d'années qui sont affreux. Qu'est-ce qu'on voit les médecins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient saigner les personnes par exprès. Amen. Amen. C'est correct. Alléluia. Bon, où est-ce que j'étais? Numéro un. C'est là où j'étais. Il y a des choses qu'il faut qu'on s'en souvienne. Il faut qu'on fait cela en mémoire de Jésus. Première chose qu'il ne faut pas oublier, si on va bien discerner le corps de Christ, parce que si nous ne discernons pas le corps de Christ, si nous ne comprenons pas qu'est-ce que Jésus a fait à la croix, si nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'il a accompli pour nous, nous allons rester dans les ténèbres et nous allons souffrir à cause de cela. Numéro un, souvenez-vous que Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Amen. Ou je ne sais pas ce qu'on devrait dire, Pâque, je ne sais pas. Pâque, mais c'est lequel qui a le plus de punch, Pâque, je ne sais pas. Hein? Souvenez-vous que Christ est notre Pâque. Et ça tombe bien parce que Pâque, c'est la semaine prochaine, n'est-ce pas? Et savez-vous, la plupart des gens, ils pensent Pâque égale œuf en chocolat. Pâque égale lapin. En chocolat aussi, en plus. Quelqu'un qui a faim ce matin? Mais qu'est-ce qu'on va voir dans la parole de Dieu que Pâque égale agneau? Amen? On va voir cela, parce que d'où vient ce... C'est quoi Pâque? En Corinthiens chapitre 5, verset 7, dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » Et vous savez que dans la Bible, le levain représente le péché. OK? Et quand, on va parler de ça, quand le peuple d'Israël, ils étaient des esclaves en Égypte, ils étaient opprimés, c'était là pendant 400 ans, ils étaient vraiment, vraiment abusés, maltraités par les Égyptiens. Et puis, ils ont crié à l'Éternel et le Seigneur a envoyé Moïse pour les délivrer. Il y avait des signes, des miracles, des prodiges qui ont été faits en Égypte pour convaincre Pharaon de le laisser partir. Et puis, à chaque fois, il a endurci son cœur. Il n'a pas laissé le peuple de Dieu partir jusqu'au moment où il a donné le dernier fléau, on peut dire. Et il a envoyé un ange destructeur en Égypte et le premier-né de chaque famille est mort. Premier-né parmi les hommes et aussi les animaux, dans une seule nuit, le premier-né de chaque famille est décédé. Mais avant d'envoyer l'ange destructeur, Dieu avait un plan pour protéger son peuple et à la fois convaincre les Égyptiens, Pharaon spécifiquement, de laisser son peuple partir. Donc, ici, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc ici, là, dans le Nouveau Testament, la Bible dit que Christ est notre Pâque. Mais c'est quoi la Pâque? Pâque fait référence à l'événement dont je viens de parler. Le moment où les Israélites sont esclaves, opprimés, ils vivent une vie dure. Vous vous rappelez de l'histoire, ils sont forcés à fabriquer les briques. Et puis, ils n'ont pas le temps, mais les matériaux nécessaires, mais les Égyptiens sont en train de les battre, les traiter durement. Donc, c'est un peuple dans la misère. Ils sont dans l'esclavage, opprimés, ils crient à l'Éternel, et Dieu envoie Moïse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les instructions. Après avoir commencé tous ces fléaux, il a donné les instructions à Moïse. Il a dit à Moïse de dire au peuple que chaque famille avait besoin de procurer un agneau. OK? Chaque famille. Et si la famille était trop petite ou trop pauvre pour acheter un agneau, deux familles ou quelques familles pourraient aller ensemble pour partager un agneau. Mais l'essentiel, c'est qu'il fallait absolument avoir un agneau. Et en plus, il a donné les instructions que pendant une certaine période, les familles avaient besoin de manger du pain sans levain. OK? Du pain sans levain. Parce que le levain représente le péché. Et qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il était en train de préparer les esclaves pour leur départ. Il allait les libérer de leur servitude. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais c'est là qu'est-ce qu'on appelle le Pâque. Et je vais lire ce matin, Exode chapitre 12, c'est dans vos notes. C'est bien important de comprendre Pâque. Exode 12, 5, parce que Jésus est appelé notre Pâque. Il donne une instruction précise ici. Ce sera un agneau sans défaut. Tu peux souligner le mot sans défaut. Mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang. Tu peux souligner son sang. Et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, tu peux souligner la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point au demi-cuit et bouillé dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'à matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous soyez prêts à partir. N'oubliez pas que l'Égypte représente une vie du péché, une vie accablée, une vie misérable, une vie opprimée. Et le peuple de Dieu vont sortir de la misère. Mais ça prend un agneau afin de pouvoir sortir. Vous allez voir pourquoi. Donc, on continue. Verset 11 encore. Vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Tout le monde dit, c'est la Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang, souligne cette phrase, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, souligne cette phrase, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous savez que Pâques, en anglais, c'est Passover, qui veut dire littéralement passer par-dessus. Avez-vous entendu parler de Passover? Hein, les Juifs aujourd'hui, à Montréal, il y a beaucoup de Juifs et ils se préparent pour le Passover. N'est-ce pas? La Pâque. C'est la même chose. Pâques, Passover. Donc, Pâques veut dire, on pourrait, de passer par-dessus. Mais pourquoi est-ce que l'ange destructeur a passé par-dessus quelques maisons? Quelle maison est-ce que l'ange destructeur a choisi de passer par-dessus? C'est seulement les maisons qui avaient le sang de l'agneau appliqué sur les linteaux des portes. Amen? Donc, comme il a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Donc, on voit cela. C'est bien important. Intéressant aussi que la Bible disait que le peuple juif avait besoin de prendre les branches de hyssop et puis de tremper ça dans le sang de l'agneau et d'appliquer ça au poteau de la porte et au linteau de la porte, n'est-ce pas? On pourrait dire au poteau et au linteau, ça fait presque une forme de la croix, n'est-ce pas? On voit le poteau et le linteau. Et le sang est appliqué. Et c'est seulement le sang de l'agneau qui les a sauvés. Amen? Mais ce n'est pas juste le sang de l'agneau qui était important. Ils ont reçu les instructions aussi pour manger la chair de l'agneau. Tout le monde dit le sang et la chair. Et les deux sont importants. Et si on ne comprend pas la signification du sang de Jésus, on meurt. Et si on ne comprend pas l'importance du chair de l'agneau, on manque la force nécessaire pour faire notre voyage. Comprenez-vous? On parle de Pâques ce matin. Amen. Donc, parce que tantôt, on va recevoir quelque chose en mémoire de Christ qui est notre Pâques. Et c'est important. Regardons ce verset que j'ai mis dans vos notes, psaume 105, verset 36. C'est tellement puissant. C'est un résumé de ce que Dieu a fait pour les Israélites quand ils sont partis lors de la Pâque. Enfin, dans les familles d'Égypte, Dieu frappa de mort tous les fils aînés, le plus précieux produit de leur vigueur. Puis, il fit sortir les siens chargés d'argent et d'or dans leur tribu personne ne traînait le pied. Je ne sais pas si vous réalisez jusqu'à quel point on vient de lire le récit d'un miracle incroyable. Imaginez qu'à l'époque, on ne sait pas exactement combien d'Israélites il y en avait, mais les gens pensent que c'était une population semblable à la population de la grande région de Montréal. Ça, c'est quand même pas mal du monde, n'est-ce pas? Imaginez toute la ville de Montréal et peut-être même la rive sud et la grande région de Montréal. Imaginez tout le monde qui habite là. OK? Est-ce que vous savez qu'il y a parmi tous les Montréalais au moins quelques personnes qui sont infirmes et qui sont faibles, qui ne sont pas capables de marcher? Vous êtes d'accord? Il y a des personnes qui sont pauvres, il y a des personnes qui sont dans la misère. Maintenant, imaginez, dans une seule nuit, demander à tout le monde qui est là de quitter leur maison et de marcher pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour aller faire un culte au Seigneur. Ça serait tout un processus, n'est-ce pas? Imaginez combien des ambulanciers ça prendrait juste pour transporter les personnes qui sont clouées au lit. Et là, on parle d'une population comme la population de Montréal. On parle des personnes qui sont dans l'esclavage depuis des années. Et vous savez que la vie d'un esclave, ce n'est pas une vie facile. Pouvez-vous croire qu'il y avait parmi eux des personnes qui étaient faibles physiquement? Surtout les moins jeunes. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est que Dieu les a fait sortir tous ensemble, dans une seule nuit. Et quand Dieu les a fait sortir, il y avait trois choses que nous remarquons. Ils sont sortis avec l'argent et l'or d'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu a demandé aux Israélites d'aller cogner les portes et de demander à toutes les personnes, les Égyptiens, « Donne-moi ton argent, donne-moi ton or. » OK? Et laisse-moi vous dire que le peuple d'Égypte était tellement tanné de vivre avec ses Israélites parce que, à cause de eux, dans leur tête, tous ces fléaux, toutes ces malédictions sont tombées, les grenouilles, ils sont tannés des grenouilles, ils sont tannés de voir les poissons mourir, ils sont tannés de tous ces problèmes. Donc, oui, vous allez partir, bon, prenez ma bague, prenez mes boucles d'oreilles, prenez mes assiettes en or, en argent, prenez tout et allez-y! « Va-t'en! » Je commence à dire ça, mais c'est peut-être pas gentil. Mais ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et Dieu avait un but pour cela aussi. Ils sont partis avec tout l'or et l'argent, la Bible dit. Dieu les a sauvés de la mort. Et en plus, parmi eux, il n'y avait personne qui traînait le pied. N'est-ce pas miraculeux? Grande population. Tout le monde sort avec les poches pleines d'argent et d'or. Tout le monde sort en vie. Il n'y a personne qui avait besoin d'enterrer un premier-né. Parce que dans leur famille, tout le monde était protégé à cause du sang, n'est-ce pas? Et en plus, tout le monde est assez costaud et en forme pour marcher et faire la route ensemble. Miraculeux, n'est-ce pas? Mais savez-vous quoi? Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne comprennent pas que Christ est notre Pâque. Et qui veut faire la même chose pour nous aujourd'hui? Regarde bien. On voit ceci dans vos notes. Trois choses. Le sang de l'agneau les a sauvés de la mort. N'est-ce pas une bonne nouvelle? L'ange a vu le sang qui était appliqué sur le poteau, le linteau, sous forme de croix, on pourrait dire. Et il a dit, « Bon, je passe par-dessus. » Ensuite, la chair de l'agneau les a donné la force physique. Ils ont mangé la chair de l'agneau. Tout est habillé, avec les souliers aux pieds, le bâton dans la main, prêt à partir. Ils ont mangé à la hâte. Et puis, troisièmement, Dieu les a fait sortir avec les richesses de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y avait un but pour cela. Parce que Dieu voulait bâtir un tabernacle dans le désert pour que le peuple de Dieu puisse adorer Dieu. Donc, l'or et l'argent étaient destinés à être utilisés pour construire le tabernacle. Plus tard, on va voir qu'il y a des gens qui se sont trompés, ils ont construit un idole avec ça aussi. Mais c'est ça le problème. Il n'y a pas un problème avec l'argent et l'or. Ça, c'est, l'argent et l'or, ce n'est pas méchant. C'est Dieu qui est le propriétaire de tout, n'est-ce pas? Mais c'est qu'est-ce qu'on fait? On peut bâtir un tabernacle ou on peut bâtir un veau d'or, un idole. Mais qu'est-ce que je veux que vous voyez? Que Dieu a fait sortir son peuple. Sauver la vie, les a donné la force physique, ils sont sortis avec les richesses d'Égypte. Et puis, Jean chapitre 1, verset 29, ça nous fait réaliser encore que Christ est notre Pâque. Et quand Jean-Baptiste a vu son cousin Jésus arriver, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici quoi? L'agneau de Dieu. Tout le monde dit l'agneau de Dieu. Avec révérence, on dit merci pour l'agneau de Dieu. Amen. Jésus est notre Pâque. Jésus est l'agneau sans défaut. Jésus est le sacrifice. C'est le sang de Jésus qui nous sauve de la mort. C'est la chair de Jésus qui nous guérit de nos maladies. Amen. Et même, je sais qu'il y a des personnes qui ont de la misère avec cela, mais la Bible dit, c'est pas moi, je cite un verset biblique qui dit que de riche qu'il était, Jésus s'est fait pauvre afin qu'on soit enrichi en lui. OK? Je sais qu'il y a des gens qui, oh, mais laisse-moi vous dire que Dieu a promis dans sa parole de nous délivrer de l'esclavage. Et deuxième passe de vos notes, Galates chapitre 3, verset 13. La Bible dit que Christ, notre Pâque, on pourrait dire, l'agneau de Dieu, Christ nous a rachetés de quoi? De la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Donc, je veux que vous voyez que l'agneau de Dieu fut pendu au bois. Et le sang de l'agneau, Jésus, était appliqué, si vous voulez. Ça a coulé sur le poteau et le linteau. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que vous et moi, nous prenons par la foi ce sang et qu'on fait une application à la porte de notre cœur. Et on peut se dire, Seigneur, j'accepte ton sacrifice. Je crois en ton sang. Je crois que ton sang est précieux. Donc, je l'applique à ma vie. Je mets ton sang sur la porte de mon cœur. Et quand nous faisons cela, la Bible dit que nous passons de la mort à la vie. Et nous sommes nés de nouveau. N'est-ce pas merveilleux? Christ est notre Pâque. Comment on dit Christ est notre Pâque? Alléluia. Et ici, comme on vient de lire, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. J'aimerais avoir une semaine, un mois, une année, juste pour parler de cela. Parce que c'est tellement riche. Et il y a tellement de chrétiens qui ignorent qu'est-ce que Christ a fait pour nous. Mais je vous lance le défi. Allez lire vous-même, c'est quoi la malédiction de la loi? Lisez vous-même à la maison, j'ai mis ça dans vos notes, Deutéronome 28. Et vous allez voir quelles sont les bénédictions que Dieu a promis et quelles sont les malédictions qui s'attachaient à la loi de Dieu. Vous allez voir, c'est pas moi qui l'invente, c'est Dieu qui dit clairement, voici la chose qui va arriver si vous n'obéissez pas à ma parole. Et on peut voir qu'en général, on peut mettre les choses dans trois catégories. Les gens vont pas vivre longtemps, ils vont mourir. OK? Ils ne vont pas être capables de se tenir devant leurs ennemis. C'est les ennemis qui vont les vaincre. Ils vont mourir. Ils ne vont pas finir leur jour sur la terre. Deuxièmement, le Seigneur ne va pas bénir leurs entreprises. En fait, le sol de la terre, si un fermier plante les choses, il ne va pas avoir une récolte. Si quelqu'un fait une entreprise, l'entreprise ne va pas réussir. Et puis, c'est quoi l'autre chose? Les maladies qui font partie aussi. Les maladies physiques. Toutes sortes de maladies qui sont décrites en Deutéronome 28. Donc, vraiment, la malédiction de la loi, on peut dire c'est la mort. Mais pour nous, c'est la mort spirituelle. C'est la mort, c'est aussi la pauvreté, parce que si nos entreprises échouent, si nos récoltes sont pas bonnes, on n'est pas prospère. La mort, la maladie. Et c'est quoi la troisième chose? La pauvreté. Donc, vous voyez, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est là, C'est dans la Bible. C'est Nouveau Testament. N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que Christ m'a racheté de la mort spirituelle, qu'il m'a racheté de la pauvreté et qu'il m'a racheté aussi de la maladie? Lisez ça. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris cela. Et laissez-moi vous dire, c'est là où je fais le lien avec 1 Corinthiens qu'on a lu au début. Parce que quand on ne discerne pas le corps de Christ comme il faut, c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'a pas su qu'est-ce que Dieu a fait pour lui en Jésus, il ne peut pas profiter. Donc, numéro 2 dans vos notes. Je me souviens, tout le monde dit « je me souviens ». Souvenez-vous que Jésus a déjà payé le prix pour nos péchés et nos maladies. Avec une pleine assurance ce matin, je prêche ce message parce que je sais. Moi, j'ai pris, je m'en souviens d'une période de ma vie, il y avait une période de 2 ans, 2 ans de fil. Pendant des années, j'ai médité ces versets. Mais pendant 2 ans spécifiquement, 3 fois par jour, je commençais dans l'Ancien Testament. Je finissais dans le Nouveau Testament et 3 fois par jour, j'avais toute une liste des Écritures que je lisais à haute voix concernant les promesses de Dieu pour la guérison divine. 3 fois par jour, 2 ans de fil, laisse-moi vous dire, il n'y a personne sur la planète qui peut me convaincre que cela ne fait pas partie du plan de Dieu. Personne. Et moi, je connais tout, je pense presque tout. Peut-être que je ne devrais pas dire tout, mais je crois que j'ai entendu un paquet de gens qui ont dit, « Oui, mais qu'est-ce que tu dirais de ce verset? » Moi, je connais ces versets aussi. Et si on regarde tout l'ensemble, si on regarde tout le conseil de Dieu, on ne peut pas fermer notre Bible avec une autre conclusion que c'est la volonté parfaite de Dieu que les enfants d'alliance, on dit d'alliance, marche en santé. Est-ce que ça arrive toujours? Non. On vient de lire au début. C'est pourquoi il y a beaucoup d'infirmes et de malades et beaucoup sont morts. Il y a des gens que même si c'est la volonté parfaite de Dieu, ça ne va pas arriver. À moins qu'on comprenne et à moins qu'on applique la parole comme il faut. Vous me suivez ce matin? Regardons ceci. Souvenez-vous que Jésus a déjà payé le prix pour nos péchés et nos maladies. J'aime tellement Psaume 103 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » N'est-ce pas intéressant que sous l'inspiration de l'Esprit, le psalmiste, ici, il a dit « N'oublie aucun de ses bienfaits. » Tout le monde dit « Je me souviens. » On a une tendance à oublier. « N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. » Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents que le sang de Jésus vous a lavé de toutes vos iniquités? Il n'y a rien que vous avez fait qui n'est pas lavé par le sang de Jésus. Mais la Bible dit, la même Bible, le même verset dit que c'est lui qui guérit toutes mes maladies aussi. Vous savez quoi? C'était un peu moins enthousiaste quand je dis ça. Pourquoi? Parce que notre tête est programmée à penser autrement. On a de la difficulté. Pourtant, les Juifs avaient beaucoup moins de difficultés à comprendre cela. Même on voit les personnes, quand Jésus faisait des miracles et guérissait les personnes le jour du sabbat, les Juifs n'ont pas dit, « Oh, c'est pas vrai. C'est juste un truc, c'est un magicien ou quelque chose. » Non. Qu'est-ce que les Juifs disaient, c'est que, « C'est pas correct, Jésus, que tu guéris le jour du sabbat. » Il y a 6 autres jours pour travailler et tu devrais guérir les autres journées. Donc, dans le sens, est-ce que vous comprenez que pour eux, ce n'était pas étonnant que les personnes soient guéries? Ce qui était étonnant, c'est qu'il a osé le faire le jour du sabbat. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en alliance avec Jéhovah Rapha. La première fois que Dieu a donné un de ses noms rédempteurs. Parce que Dieu, quand il s'est présenté à son peuple, il y a... au moins 7 noms rédempteurs, ce sont des noms composés, comme on a Jean-Charles ou Jean-Philippe. On a aussi Jéhovah, qui est le nom de l'Éternel, mais il dit, Jéhovah, par exemple, Sidkenu, c'est le, je suis l'Éternel, ta justice. Jéhovah Shalom, je suis l'Éternel, ta paix. Jéhovah Nissi, je suis l'Éternel, ta bannière. Mais la première fois que Dieu s'est révélé à son peuple avec un de ses noms rédempteurs, il a dit, je suis Jéhovah Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je mettrai pas sur toi toutes les maladies que j'ai mis sur les Égyptiens, si tu me sers, et j'éloignerai de toi toutes les maladies. Je bénirai ton pain, je bénirai tes eaux, j'éloignerai de toi toutes les maladies. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il n'a pas changé. Donc les Juifs, ils savaient, bon, ça c'est Jéhovah Rapha. C'est normal qu'on soit guéri si on marche selon l'alliance qu'il nous a donnée. Mais nous, nous avons eu d'autres choses qui ont été mises dans notre tête, n'est-ce pas? Oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre de ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Laisse-moi te dire, toutes les iniquités, toutes les maladies. Moi, je ne connais pas une maladie qui n'est pas, qui est trop grande pour Dieu. On a des personnes dans notre église qui ont été guéries de bactéries mangeuses de chair. On a des personnes qui ont eu des guérisons de cancer, des tumeurs de cancer qui sont disparues. Moi, je connais un de mes amis qui est missionnaire au Mexique, qui faisait des opérations souvent pour les pauvres, parce que quand ils ont eu des bagarres et les gens ont été poignardés, etc. Donc, ils venaient à lui. « Ah, je saigne. » Donc, c'est lui qui faisait « Monsieur médecin ». Donc, il s'est fait infecter par le sida. Donc, il avait, à un moment donné, 26 maladies qui travaillaient dans son corps. Il était presque mort, mais il est allé voir les anciens de son église. Ils ont prié pour lui et boum, il est complètement guéri. Plus une trace de sida. Et je connais le gars personnellement. Laisse-moi vous dire, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Alléluia. Regardons ceci, Ésaïe 53. Je prends un peu de temps parce que dans quelques minutes, on va recevoir le repas du Seigneur, mais je veux que ça puisse faire son impact dans notre vie. Souvenez-vous que Jésus a déjà payé le prix pour nos péchés, nos maladies. Mais Ésaïe 53, voici quelque chose. C'est dans vos notes. J'aimerais que vous lisez ça dans vos notes parce que j'ai écrit en parenthèse les mots hébreux. Cependant, ce sont nos souffrances. En hébreu, c'est le mot Choli, qu'il a porté, ou Koli, pardon, qu'il a porté. Et le mot porté en hébreu, c'est Naza. C'est de nos douleurs, qui est Makob, qui s'est chargé. S'est chargé, c'est le mot Kabbal. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes, quoi? Donc, vous voyez, on voit que c'est un package deal, on peut dire. Que quand Jésus est mort pour nous, il est venu pour racheter l'homme entier, esprit, âme et corps. Nous voyons l'esprit, l'âme et corps ici. Il était, on va le lire encore, il était quoi? Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Là, il a dealé avec le problème de l'esprit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Là, on voit la paix dont nous avons besoin au niveau de notre âme. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Là, on parle d'une rédemption même pour le corps. Vous me suivez? Intéressant, parce que si on lit cela, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le mot souffrance, c'est un peu vague. Mais il y a 22 versets dans l'Ancien Testament qui utilisent le mot colis. Et je pense, il va falloir que je raconte encore, mais je pense qu'il y a peut-être au moins tous les versets sauf 4 où ce mot est traduit spécifiquement maladie. Donc, littéralement, ce verset dit, cependant, ce sont nos maladies qu'il a portées. Que quand Jésus est mort à la croix, il a porté nos maladies. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous croyez cela ce matin? Que Jésus a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Intéressant parce que si on, en fait, dans la Bible du Saint-Marc, je l'ai mis dans vos notes, Ésaïe 53, 4, ils l'ont traduit comme faux. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais en verset 11, là, on va voir un autre exemple qui est bien important. « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera, encore c'est le même mot, kabbal, de leurs iniquités. » Parce qu'il y a des gens qui sont contents qu'il se charge de nos péchés, nos iniquités. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté, Naza, les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » Qu'est-ce que je veux souligner? C'est que les mêmes mots que Dieu a utilisés pour porter et se charger, kabbal et naza, quand il faisait référence à nos maladies et nos douleurs, c'est exactement les mêmes mots qu'il utilise quand il parle de nos péchés et nos iniquités. Donc, de la même façon que Jésus a porté nos iniquités et qu'il s'est chargé de nos péchés, de la même façon, il a porté nos maladies et s'est chargé de nos douleurs. Je sais que ça peut vous causer des problèmes théologiques si vous n'êtes pas habitué à juste lire la Bible comme la Bible est écrite. Mais c'est ça que la Bible dit, n'est-ce pas? Oui, mais est-ce que ça fait... Il y a des gens qui disent, mais oui, mais il fait référence. Quand il dit qu'on est les maladies, c'est juste les maladies spirituelles. Il ne parle pas des maladies physiques. Ah oui? Penses-tu? Mais pourquoi d'abord? Est-ce que... On peut regarder, c'est dans mon note, Matthieu chapitre 8. Quand Jésus, on sait que la Bible dit que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de Dieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ils disent, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord que ça c'est une maladie physique? Elle est couchée, elle fait de la fièvre. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit, quoi? Tous les malades. Pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il fait référence à Ésaïe 53, 4, qu'on vient de lire. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, on voit clairement que quand la Bible dit que Jésus, en Ésaïe 53, qu'il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, qu'il ne parle pas de nos maladies spirituelles, il parle de nos maladies physiques. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est une très bonne nouvelle pour les chrétiens? Est-ce que vous êtes d'accord? Ben, pourquoi? Je ne comprends pas. Mais peut-être je comprends. Je ne comprends pas pourquoi. Et moi, je sais, parce que ça fait une trentaine d'années que je suis chrétien. Ça fait 20 ans, je suis dans mon 20e année du ministère cette année. Et moi, je sais, j'ai eu l'occasion de voyager un peu partout, dans beaucoup, beaucoup d'églises. J'ai eu un contact avec beaucoup, beaucoup de chrétiennes, avec beaucoup de croyances différentes. Mais s'il y a une chose que j'ai remarqué, que quand on commence à prêcher que Jésus a porté nos maladies, il a porté nos iniquités, il s'est chargé de nos péchés, tout le monde est d'accord. Tout le monde dit oui, amen, c'est sûr. On peut tous être sauvés. Et laisse-moi vous dire que si c'est la seule chose que Jésus a faite, c'est assez. Savez-vous que vous pouvez aller au ciel avec un corps qui est malade sans jamais recevoir la guérison, mais vous ne pouvez pas aller au ciel avec un esprit qui est malade. Donc, si j'avais besoin de choisir entre la rédemption de mon esprit, mon âme, et la rédemption de mon cœur, je choisirais mon esprit. Vous êtes d'accord? Mais pourquoi est-ce qu'il y a tellement des personnes qui vont, quand on prêche cela, on dit, Jésus a porté nos iniquités, il s'est chargé de nos de nos péchés. Tout le monde dit oui, d'accord, je suis d'accord. Mais quand on dit, dans le même contexte, le même chapitre, que Jésus a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, il dit non, non, ça, ça marche pas. Je pense que la raison, c'est parce que on a trop des gens qui se fient sur les émotions et les expériences qu'ils ont vues ailleurs. Oui, mais je connais quelqu'un qui est sincère, qui a prié, qui avait l'air d'avoir la foi, etc., mais il est mort quand même. Laisse-moi vous dire, je suis pas là pour juger de l'écart de qui que ce soit. Je suis là juste tout simplement pour annoncer la bonne nouvelle. Et mon cœur est brisé parce que je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens. Et moi-même, au moment donné, j'étais compté parmi eux où j'avais de la difficulté à saisir les promesses de Dieu pour ma guérison. Mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai connu une telle... Moi, j'ai des amis à moi qui ont été dans le ministère, des pasteurs qui sont morts prématurément, des bons amis. Dans une année, j'ai perdu deux de mes amis dans les trentaines, avec des familles qui sont morts de leucémie et un autre problème. Est-ce que ça va changer la parole de Dieu? Non. Peut-être, au lieu de dire, bon, mais ça prouve que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu, au lieu de faire ça, on devrait retourner à la parole et dire, bon, qu'est-ce que la Bible dit? Et la Bible dit que si nous ne savons pas discerner le corps de Christ, c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades et un grand nombre sont morts. Est-ce que je suis en train de faire que mon ami a fait quelque chose de pas correct? Je ne suis pas du tout en train de dire cela. Deutéronome 29 dit, les choses secrètes appartiennent au Seigneur. Mais qu'est-ce que je peux dire? C'est que la parole est vraie. Et moi, j'aime mieux viser haut et arriver à 50% que viser zéro et atteindre à 100%. Est-ce que vous me suivez ce matin? Moi, j'aimerais mieux dire, bon, mon but, c'est de vivre une longue vie sur la terre. Ça, c'est mon désir. Pourquoi? Parce que plus longtemps je suis sur la terre, plus je peux faire du bien à ma famille, à l'Église, et je peux amener beaucoup plus de gens au Seigneur. Et je pense que, idéalement, dans un monde parfait, c'est la volonté parfaite de Dieu. Est-ce qu'il y a des cas... Ou est-ce que tout le monde va arriver à cette hauteur? Non! Il y a des gens qui ne vont pas atteindre les objectifs. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les gens qui... Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous voyez mon cœur? Mon cœur est ému de compassion. Parce que c'est comme Jésus qui a vu la femme qui était courbée depuis 18 ans. Et il a dit, est-ce que... Il était vraiment fâché. Comment ça que cette, je paraphrase, que cette fille d'Abraham, c'est-à-dire une fille d'alliance, n'est-ce pas correct que elle, cette fille d'Abraham, que Satan a liée pendant ses 18 ans, il faut qu'elle soit libérée, même si c'était le jour du sabbat. Jésus était ému de compassion. Il y avait des fois quand Jésus était même fâché avec les hommes religieux. Parce que, laisse-moi vous dire, quand on prêche que Jésus sauve, que Jésus guérit, on n'a pas de la misère avec les non-croyants, mais on a beaucoup de misère des fois avec des hommes religieux qui ne veulent pas que ça soit prêché ou qui vont dire que ça, c'est plus pour nous aujourd'hui. Je suis là pour vous annoncer que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En fait, ça, c'est le troisième point. Souvenez-vous que Jésus est toujours le même. Excuse-moi, je ne vais pas m'excuser, mais je suis passionné ce matin. Ça se voit? Moi, je sais c'est quoi d'être malade, et je sais c'est quoi d'être guéri, et c'est mieux d'être guéri. Amen. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle, et faisant quoi? Guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Ça, c'est mon sauveur et mon Seigneur. Ça, c'est votre sauveur et votre Seigneur. Ça faisait partie intégrale de son ministère. Avez-vous remarqué que quand Jésus a donné le grand mandat à ses disciples, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, qu'il a donné les mêmes instructions, qu'eux autres aussi étaient exposés de faire la même chose, aller guérissez les malades, n'est-ce pas? Vous imposerez les mains sur les malades seront guéris. On voit dans les Actes des apôtres que le ministère de guérison n'a pas arrêté, ça a continué. Et bonne nouvelle, Hébreux 13, 8. Et si je peux demander aux hommes et femmes qui vont servir la Sainte Cène de venir ce matin en avant, commencer à préparer, à distribuer la coupe et le pain. Mais Jésus, selon Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même. Tout le monde dit Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai entre mes mains un livre précieux qui révèle à chacun de nous la volonté parfaite de Dieu. J'ai une bonne nouvelle. Christ est notre Pâque. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus a versé son sang pour que nous soyons sauvés de la mort spirituelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais par les mains précieuses de Jésus, son corps a été brisé. Ils vont distribuer, mais vous pouvez prendre la coupe et le pain, je vais vous demander de le tenir dans vos mains. Son sang fut versé pour notre salut éternel. Nous avons une alliance éternelle avec Dieu par le sang de Jésus. Et par les mains précieuses de Jésus, nous avons été guéris aussi. Ce sont les choses qui nous appartiennent. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Mettez-vous à la place de Jésus-Christ ce matin. Écoutez-moi, mon cœur est rempli de compassion. Mettez-vous à la place de Jésus ce matin. Est-ce que vous m'écoutez, tout le monde? Même regardez-moi dans les yeux. Mettez-vous à la place de Jésus. Tu es le Fils de Dieu. Tu as pris une décision de te dépouiller de ta gloire et de devenir semblable aux hommes. Tu connais la faiblesse, on pourrait dire. Tu connais la fatigue. Tu sais c'est quoi? Tu sais compatir à nos faiblesses. Et tu sais que ton peuple, les personnes que tu aimes, que tu veux faire de eux ton peuple, les pécheurs qui sont morts spirituellement, qui vivent dans la misère, il y en a beaucoup qui souffrent horriblement avec les maladies. Et tu sais que, en offrant ton sacrifice, en te laissant clouer à la croix, que ton sang va couler, le sang précieux, le sang précieux va couler. Et tu sais que si les gens croient, ils vont être sauvés de leur péché. Ils vont être transportés du royaume des ténèbres, nés de nouveau dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais tu sais en même temps que quand ils sont en train de se battre de verge, à chaque fois que Jésus reçoit les coups et que ces petits morceaux de métal et de verre vont pogner une portion de ton corps. Mettez-vous à la place de Jésus. À chaque fois qu'ils vont déchirer ton corps, à chaque fois qu'ils vont arracher un peu plus de ta barbe, ils vont te donner les coups, cracher dans ton visage. À chaque fois qu'ils vont te battre, tu sais que bon, je ne fais pas cela en vain. Je sais que par mes meurtrissures, ils vont être guéris. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Jésus n'avait pas, il n'était pas obligé d'aller à la croix. La Bible dit qu'il aurait pu demander et 10 000 anges auraient pu venir pour le secourir. Mais il avait besoin de verser son sang pour qu'on soit sauvé de nos péchés. Son corps avait besoin d'être déchiré parce que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Mettez-vous à sa place. Qu'est-ce que ça ferait dans ton cœur de voir certaines de tes enfants qui disent « Oui, Seigneur, j'accepte ton sang. mais c'est correct, je peux garder ma maladie, je peux garder cela, je crois pas ou ça m'intéresse pas, c'est pas important. Mettez-vous à sa place. Moi, je dirais que Jésus dirait, mon enfant, je l'ai payé pour toi. Mon enfant, je l'ai porté pour toi. J'ai porté tes maladies. Je me suis chargé de tes douleurs. Et ce que j'ai porté, tu n'as plus besoin de porter. Amen. Et en quelque part ce matin, je veux au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous, aide-moi, Seigneur, à communiquer avec amour, avec compassion, le vrai message de la croix, Seigneur, que tu veux qu'on soit rétabli totalement, l'homme entier, esprit, âme et corps. Et Seigneur, au nom de Jésus, que chaque personne ici présente puisse avoir les yeux ouverts, réceptifs, Seigneur, que peu importe notre expérience du passé, peu importe les échecs du passé, peu importe les frustrations du passé, peu importe qu'est-ce qu'on a vécu, Seigneur, aujourd'hui, nous prenons une décision de recevoir Christ qui est notre Pâque, de discerner le corps de Christ, de comprendre que Jésus, tu es l'agneau de Dieu, que ton sang fut versé pour me sauver de mes péchés et que ton corps fut meurtrisé pour me sauver de mes maladies. Merci, Père Céleste. Avec tous les yeux fermés pour un instant, avant de recevoir la coupe qui représente le sang de Jésus, j'ai fait un engagement il y a longtemps qu'à chaque dimanche matin, je vais donner une invitation. Que si par chance, il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, peut-être il y a quelques-uns ce matin, vous n'êtes même pas sûr et certain à 100% que vous avez personnellement fait une application du sang de Jésus sur la porte de votre cœur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore convaincu que si vous trouverez la mort aujourd'hui, que vous avez déjà une place réservée pour vous au ciel. Laissez-moi vous dire, ça c'est la chose la plus importante. Et si ça serait la seule chose que vous feriez dans la vie, ça serait assez de donner votre vie à Jésus en croyant en son sacrifice du sang. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui, avec les yeux fermés, qui lèverait la main en disant, oui, parce que j'ai besoin de donner ma vie à Jésus, je veux que tu pries pour moi, je veux être sûr et certain, sans aucun doute, que je suis sauvé de mes péchés, que le sang de Jésus m'a purifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui juste lever la main? Est-ce que je ne veux pas offrir la Sainte Cène avant? C'est important. Donnez l'occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, c'est pas une... Le but, ce n'est pas de vous embarrasser. Le but, c'est de vous donner l'occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a une personne ici. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Une personne que maintenant, on va faire une prière. Cette personne va appliquer le sang de Jésus sur son cœur. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je veux que vous répétiez après moi. Et madame, je veux vraiment que tu pries cette prière du fond de ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de lever la main? Dis oui, moi aussi. On va tous prier cette prière. On va dire ceci. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Je comprends aujourd'hui que Jésus est l'agneau de Dieu, que Christ est notre Pâque et qu'il a versé son sang pour me sauver de mes péchés. Et par la foi, je reçois son sacrifice. Et je fais une application de son sang sur la porte de mon cœur. Merci Seigneur que je suis sauvé. Je suis ton enfant. Mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis pardonné, purifié, lavé, justifié. Je suis ton enfant pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.